La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck. Barge Russe 470. Anti-occidentalisation
contre des
anti-occidentaux. Dans les Échos du 2 mars 2022, on peut lire dans un article que, je cite, 6 Français sur 10 sont pour durcir les mesures à l'encontre de la Russie. 6 Français sur 10 qui connaissent ou non la géopolitique, voire le transnationalisme, qui subissent l'influence ou non médiatique, qui fait d'eux ou non des petits Américains en culotte courte. Pendant que le ministre de l'économie François Le Maire veut toucher au cœur le pouvoir russe en saisissant les avoirs des milliardaires proches du Kremlin, il est temps de revenir au charbon, de suspendre l'énergie gazifère, de revenir à l'essence ou d'adopter finalement le nucléaire. Le maire acte l'anti-occidentalisation
contre des
anti-occidentaux. En gros, le chat se mord la queue.
À quel moment, dans quelles conditions et selon quelle motivation la direction soviétique a-t-elle pris la décision de lancer une seconde intervention militaire contre la révolution hongroise, incomparablement plus massive et plus violente que celle du 24 octobre ? On en sait beaucoup plus désormais, grâce à ces nouvelles archives, même si certaines zones d'ombre ou certaines contradictions subsistent encore. Dès le départ, on l'a dit, les plus hauts dirigeants soviétiques sont divisés sur la conduite à tenir face à l'insurrection de Budapest, notamment parce qu'ils se livrent entre eux une sévère lutte d'influence, qui ne sera tranchée qu'en juin 1957, avec l'affirmation du pouvoir de Nikita Khrouchtchev. C'est donc les yeux rivés sur la scène intérieure et sur leurs adversaires que les membres du Politburo analysent la situation hongroise, autant sinon plus que sur les réactions des capitales occidentales. L'arrivée régulière des télégrammes envoyés depuis Budapest par Mikoyan et Souslov fournit l'occasion de passes d'armes renouvelées. Et lorsque le 28 octobre, Vorotchilov et Molotov attaquent l'action des émissaires du Politburo, déclarant que les services secrets américains sont plus actifs qu'eux en Hongrie, c'est en fait Khrouchtchev qui est visé à travers eux. Malgré cette pression des faucons du Politburo et malgré les nouvelles de plus en plus alarmantes provenant de Budapest au fil des jours, la direction soviétique décide de conserver son appui à Imre Nagy et Janos Kadar pour sauver les chances d'une solution à la polonaise. Autrement, dit Bulganin le 28 octobre, nous devrons entreprendre une occupation. Cela nous entraînerait dans une aventure incertaine. C'est la réunion du 30 octobre qui est la plus fascinante. Imre Nagy vient de proclamer le retour au multipartisme et de demander le départ des troupes soviétiques. Souslov vient d'envoyer un télégramme des plus alarmants mettant en garde contre un passage de l'armée hongroise à l'insurrection et demandant de masser des troupes à la frontière. C'est pourtant le moment que choisit Khrouchtchev pour entraîner le Politburo vers une profonde réévaluation des relations entre l'URSS et ses satellites en général, et la Hongrie en particulier. Les notes prises par l'un des participants à cette réunion, Maline, montrent que les hauts dirigeants soviétiques sont alors prêts à accepter le retrait des troupes soviétiques du territoire hongrois. Une déclaration portant sur l'amitié et la coopération entre l'Union soviétique et les autres États socialistes est approuvée à l'unanimité, et publié le lendemain par la Pravda. L'histoire européenne a donc bien failli basculer à ce moment précis, et la révolution hongroise aurait pu être le déclencheur d'un incroyable bouleversement du cours de la guerre froide. Certes, jamais les membres du Politburo n'évoquent l'hypothèse d'une perte pure et simple de la Hongrie, uniquement d'un retrait militaire. Mais si une semblable décision avait été prise, ses répercussions auraient certainement conduit à des mutations politiques majeures dans toute l'Europe centrale et orientale. C'est ce défi que les dirigeants soviétiques voulaient relever, le 30 octobre. Conscient que, je cite Chepilov, « les sentiments anti-soviétiques sont généraux dans les démocraties populaires », ou bien, je cite Sabourov, « qu'il est impossible de gouverner contre la volonté du peuple et qu'il faut arrêter de courir derrière les événements ». À la lumière de ces documents, rien n'interdit de penser que quelque chose comme la perestroïka aurait pu se produire 30 ans plus tôt. Or, le lendemain, 31 octobre, le jour même où cette déclaration est publiée, et où la Hongrie, l'Europe et le monde se prennent à rêver un avenir différent, le Politburo se réunit à nouveau et décide à l'unanimité de lancer une offensive militaire de grande envergure pour venir à bout, une fois pour toutes, de l'insurrection hongroise. Soudain, pour Nikita Khrouchtchev, il n'y a pas d'autre choix. Comment expliquer un si brutal retournement aux conséquences véritablement incalculables? Au matin du 31 octobre, l'élément qui bouleverse la donne, c'est l'attaque franco-britannique contre l'Égypte de Nasser pour reprendre le contrôle du canal de Suez en coopération avec les Israéliens qui ont attaqué dès le 29 octobre. On a beaucoup dit que l'affaire de Suez avait fourni une précieuse diversion pour l'URSS occupée à réprimer la révolution hongroise. On a dit aussi que la division entre les États-Unis d'une part, la France et la Grande-Bretagne d'autre part, avait affaibli le front occidental face à l'Union soviétique. Or, si on prête attention à la chronologie, c'est d'une certaine façon l'inverse qui est vrai, si l'on regarde les choses depuis Moscou, et avec les catégories d'analyse des responsables soviétiques. Au matin du 31 octobre, ce n'est pas la division, c'est l'unité du camp occidental qui semble à l'œuvre dans l'intervention franco-britannique. À ce moment, les dirigeants soviétiques ne peuvent imaginer que les États-Unis réagiront avec une grande fermeté contre cette aventure militaire des puissances coloniales. Ils ne peuvent voir qu'une chose, l'URSS est en train de perdre sur tous les tableaux. Pour le comprendre, lisons les notes prises pendant l'intervention de Khrouchtchev par Maline. Je cite « Nous devons prendre l'initiative de restaurer l'ordre en Hongrie. Si nous partons de Hongrie, cela donnera un formidable élan aux Américains, aux Anglais, aux Français, les impérialistes. Ils percevront cela comme une faiblesse de notre part et iront à l'offensive. Nous exposerions les faiblesses de notre position. Notre parti ne l'accepterait pas. À l'Égypte viendrait s'ajouter la Hongrie. Nous n'avons pas d'autre choix. » Notre parti ne l'accepterait pas. Cette mention traduit aussi, dans le revirement de Khrouchtchev, le poids des facteurs intérieurs. Pris dans la lutte entre partisans et adversaires de la déstalinisation, il ne peut prendre le risque d'apparaître en situation de faiblesse et de laisser l'affaire hongroise amoindrir sa position au sein de la direction soviétique. Les dimensions intérieures et extérieures sont ainsi inséparables pour comprendre comment fut scellé le destin de la Hongrie révolutionnaire. Reste que l'attaque du canal de Suez, à un moment si crucial, a bel et bien joué un rôle majeur dans la tragédie hongroise. Au soir du 5 novembre, les jeunes manifestants de Berlin-Ouest, qui s'en prennent avec rage aux ambassades anglaises et françaises, ne connaissaient pas le dessous des cartes, mais ils avaient senti la lourde responsabilité de Paris et de Londres dans le déroulement des événements. Désormais, la machine est en marche, et rien ne pourra l'arrêter. À Moscou, la délégation chinoise donne son feu vert à l'intervention. Pendant ce temps, du 1er au 3 novembre, Khrouchtchev parcourt l'Est de l'Europe pour convaincre ses partenaires, et surtout les Polonais et les Yougoslaves, du bien fondé de l'opération qui se prépare. C'est la réaction de Tito qui était la plus redoutée. Du 2 novembre à 7 heures du soir, au lendemain matin à 5 heures, Tito et Khrouchtchev discutent à bâton rompu. Devant une Hongrie qui suit finalement une toute autre voie que le modèle yougoslave, contrairement à ce qu'il espérait au départ, Tito approuve l'intervention militaire, mais insiste pour qu'elle s'accompagne d'une préparation politique, à savoir essentiellement la démission d'Imre Nagy en faveur d'un nouveau gouvernement. Et pour diriger ce gouvernement, Tito fait pencher la balance en faveur d'un homme qu'il connaît bien, János Kádár. Kádár, avec d'autres dirigeants hongrois, est en URSS depuis le 2 novembre. Bien des mystères demeurent sur l'attitude de celui qui a soutenu Nagy presque jusqu'au bout, puisqu'il a approuvé la proclamation de la neutralité hongroise au cours du Conseil des ministres du 1er novembre. Où finit la loyauté? Où commence le double jeu et finalement la trahison? On ne saura jamais ce qu'il avait en tête en gagnant Moscou le lendemain. Mais les notes prises par Vladimir Maline nous offrent à nouveau un fascinant aperçu des réunions décisives entre le Politburo et János Kádár les 2 et 3 novembre. Le premier jour, en l'absence de Khrouchtchev, Kádár semble encore parler comme un membre du gouvernement de Nagy, qu'il est toujours formellement. Il va même jusqu'à mettre en garde le Politburo contre une intervention militaire. L'usage de la force militaire serait destructeur et mènerait au bain de sang. Qu'arriverait-il ensuite? Le moral des communistes serait réduit à zéro, les pays socialistes souffriraient de grandes pertes. Selon Molotov, Kádár tenta même de revenir à Budapest. Dans ses mémoires, Khrouchtchev raconte la réunion du lendemain, 3 octobre, où les soviétiques jouent carte sur table. Immédiatement, nous leur avons dit franchement que la contre-révolution avait commencé en Hongrie et que nous devions utiliser les troupes pour la vaincre. J'ai bien fait attention à regarder Kádár. Il écoutait en silence. Puis vint son tour de parler. Oui, vous avez raison. Pour pouvoir stabiliser la situation, nous avons besoin de votre aide, maintenant. Kadar vient ainsi de commencer un règne de plus de 30 années. Le nouveau gouvernement hongrois est formé sur le papier en quelques heures. Tout est en place. Au soir du 3 novembre, les dirigeants militaires de la révolution hongroise, qui croient se rendre à une négociation sur le retrait des troupes soviétiques à l'extérieur de la capitale, sont arrêtés par le KGB. Les chars soviétiques foncent sur Budapest.
Donc dans cet enregistrement, on retrouve plusieurs choses. Premièrement, on retrouve un truc avec la Chine qui donne son feu vert à Moscou pour faire une attaque armée de la Hongrie, de Budapest. Bon, il y a des intérêts russes, forcément. Donc il est dit que Khrouchtchev, le président, enfin, le dictateur russe de l'époque, aurait pu effectuer un renversement européen, faire une perestroïka, vous savez, un éclatement soviétique de l'Union soviétique en Russie 30 ans plus tôt, à peu près. Donc ça, c'est un... On retrouve aussi des sentiments anti-soviétiques dans les démocraties, tel qu'il est dit. J'ai noté... Khrouchtchev et Poutine, en un sens, sont un petit peu se retrouvent sur différents points par la suite lorsque ils disent pour Khrouchtchev quitter la Hongrie alors qu'il y a une attaque franco-anglaise en Égypte, l'Égypte de Nasser au canal de Suez. Donc si Khrouchtchev lâche la Hongrie pour l'Égypte, pour tout ce qu'il peut posséder là-bas, c'est une faiblesse. Donc il est dit l'attaque du canal de Suez, une diversion pour l'Union occidentale. Les États-Unis, comme je disais dans la barge russe précédente, c'est quoi que je disais ? Les États-Unis d'occidentalisation. À savoir, I don't know, you know that. Voilà. Donc, on retrouve aussi la Chine. La Chine qui disait, ouais, ok, elle attaque nous. On dit, oh, ok, moi, t'es rocker, est-ce que tu attaques? Ok, that's all right.
Imre Nagy, président du Conseil des ministres de la République populaire hongroise qui vous parle. Aux premières heures de la matinée, les troupes soviétiques ont lancé une attaque contre notre capitale dans l'intention évidente de renverser le gouvernement hongrois légal et démocratique. Nos troupes sont au combat. Le gouvernement est à son poste. J'en informe le peuple de notre pays et l'opinion mondiale.
Rien de plus différent que les interventions soviétiques du 24 octobre et du 4 novembre. Le commandement a tiré les leçons de ses échecs, mis en œuvre d'énormes moyens militaires et donné l'ordre d'utiliser la plus grande violence. Se concentrant d'abord sur les points de résistance les plus saillants, les chars de l'armée rouge sillonnent ensuite la ville, criblant de balles et d'obus les immeubles où se cachent des tireurs isolés. 12 ans seulement après le terrible siège de Budapest, occupé par les troupes nazies, la ville replonge dans la guerre et se retrouve à nouveau au fond des caves, dans un réflexe salutaire. La ville portera longtemps les marques de son martyr, témoignage silencieux et éloquent d'une révolution dont on ne pourra bientôt plus prononcer le nom. C'est dans les faubourgs ouvriers que la résistance fut la plus acharnée, en particulier à Tchepel, victime du socialisme devenu dernier bastion de la révolution, refusant toute reddition jusqu'à l'épuisement de ses munitions le 11 novembre. Au même moment, les derniers combattants de Staline Varoche cessèrent le combat et se dispersèrent. De main en main, et la solidarité dont les Hongrois ont fait l'expérience pendant leurs quelques jours de liberté reste largement intacte. Le 23 novembre, entre 2 et 3 heures de l'après-midi, obéissant à un mot d'ordre passé de bouche en bouche, les passants gagnent les cours intérieures des immeubles, les rues se vident, Budapest devient une cité morte. Le message est clair. Un mois après l'éclatement de la Révolution, la flamme de la liberté ne s'est pas éteinte à Budapest. Le 4 décembre, des milliers de femmes en noir, portant le deuil des héros de la Révolution, convergent des quatre coins de Budapest vers la place des héros, dans une manifestation silencieuse dont l'extraordinaire charge émotionnelle frappera le monde entier. Unis dans la dignité, les Hongrois le sont aussi par l'humour. Proclamation de la police politique. Nous avons été informés de ce que 10 millions de fascistes contre-révolutionnaires sont actuellement à l'œuvre en Hongrie. Nous appelons le peuple travailleur à s'opposer par tous les moyens à ce que ces 10 millions d'abjects capitalistes féodaux ne s'infiltrent parmi les 5000 vrais amis de l'Union soviétique qui ont toujours approuvé la présence des troupes soviétiques dans notre pays. La manière dont ce trait d'esprit et beaucoup d'autres nous sont finalement parvenus montre que le régime n'avait pas le même sens de l'humour que les Budapestois. C'est en effet dans des dossiers judiciaires qu'ils étaient réunis et ont valu à leurs auteurs présumés de lourdes condamnations. Pour comprendre comment János Kádár a pu briser cette solidarité pour imposer un pouvoir qui durera finalement plus de 30 ans, il faut en effet prendre la mesure de l'ampleur et de la cruauté de la répression. Dans les premiers jours, elle est avant tout le fait du KGB et de l'armée rouge. Des groupes entiers d'insurgés, mais aussi des civils qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, sont arrêtés et pour la plupart déportés en Union soviétique, près de la frontière hongroise, pour être interrogés ou tout simplement pour remplir des quotas. À ce moment, Kádár peut apparaître comme le modérateur de la répression soviétique et joue effectivement un rôle dans l'arrêt des déportations. Il promet en même temps de conserver la plus large partie des acquis de la révolution et engage un dialogue avec les conseils ouvriers.
Ensuite, dans cette partie qu'on vient d'écouter, on retrouve des dissidents en Hongrie qui sont anti-révolutionnaires, qui sont pour la Russie, quoi. Comme il est possible qu'il y en ait à Kiev, à moins que l'histoire ait fait son chemin. Comme je vous disais, le temps est passé par là et il n'y en a plus. On va savoir.
Ce sont les nouveaux dirigeants hongrois qui prennent eux-mêmes en main les rênes de la répression. Des centaines de leaders des conseils ouvriers sont alors arrêtés. Et quand la population se mobilise pour les défendre, comme à Miskolc ou à Eger, les forces de sécurité tirent et les victimes tombent par dizaines. Dès le mois de janvier, la grève devient un délit passible de la peine de mort. En mars, János Kádár va à Moscou et y obtient un blanc-seing pour mener des représailles à beaucoup plus grande échelle. C'est alors une nouvelle phase de terreur qui s'abat sur la société hongroise. En tout, 341 condamnés à mort seront exécutés par pendaison. 22 000 personnes seront condamnées. Environ 100 000 directement concernées par une arrestation, une perquisition, la perte de leur emploi ou de leur logement. Les camps d'internement staliniens sont rouverts et 13 000 personnes y sont parquées. À toutes ces victimes s'ajoutent les 200 000 Hongrois qui ont fait le choix de l'émigration pour fuir la répression ou simplement construire un avenir meilleur. 200 000 personnes, c'est 2% de la population hongroise, l'équivalent d'un million de personnes pour un pays de 50 millions d'habitants. L'hémorragie est terrible, d'autant plus qu'elle concerne avant tout les jeunes générations. Le symbole même de la cruauté et de la félonie de cette répression kadarienne, c'est le sort fait à Imre Nagy et ses compagnons. Au matin du 4 novembre, avec les autres membres de son gouvernement, Nagy s'est réfugié à l'ambassade de Yougoslavie, où il pense pouvoir continuer sa lutte politique. Le 22 novembre, après que Kádár a signé un sauf-conduit pour les réfugiés de l'ambassade, le bus qui devait les ramener chez eux prend en fait la direction de la Roumanie. Internés avec femmes et enfants à Snagov, les leaders de la révolution reviendront en Hongrie pour être jugés et exécutés le 16 juin 1958. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, ce ne sont pas les soviétiques, mais les dirigeants hongrois et d'abord Kádár lui-même qui ont décidé des charges qui devaient peser sur eux et de la nature de la peine. Il fallait que ces hommes meurent pour que meure avec eux la flamme de la révolution. Leurs cadavres furent enterrés sous de faux noms, sans sépulture, dans la parcelle 301 du cimetière de Rákoskeresztúr à Budapest. La révolution ne devait avoir ni mémoire, ni sanctuaire. Il fallait désormais survivre et composer, pour résister plus longtemps aux arrestations, aux déportations, aux exécutions, au chantage de la police politique, aux intimidations multiples et aussi aux offres de services. Nul n'avait plus l'espoir d'un soudain renversement des choses, seulement la certitude que les maîtres du moment étaient là pour longtemps, sinon pour toujours. Et ce pouvoir, qui avait su faire sentir à la société combien sa défaite était totale et sans remède, ce pouvoir lui susurra bientôt que tout pouvait reprendre son cours, qu'il suffisait simplement, pour retrouver une fonction administrative ou une place à l'université, de renoncer à vouloir changer ce qui ne pouvait l'être, la présence de l'armée rouge et le pouvoir du Parti communiste. Il n'était plus besoin d'assister à d'interminables réunions politiques, mais de garder sa langue et cultiver son jardin. « Qui n'est pas contre nous est avec nous », proclamait Kádár. la Hongrie s'enfonçait dans un désert politique pour plus de 2 décennies. La révolution était vaincue. L'écrasement de la révolution hongroise par les chars de l'armée rouge n'a pas tué qu'à Budapest. À Paris, le 7 novembre 1956, 3 jours après le début de l'intervention soviétique, 2 militants communistes et 1 syndicaliste trouvent la mort lors de violents affrontements à l'issue d'une manifestation de soutien à la révolution hongroise qui a dégénéré en assaut donné au siège du Parti communiste français. Ce drame, aujourd'hui oublié, nous permet de prendre la mesure des tensions créées dans l'ensemble de l'Europe occidentale par le choc de l'attaque soviétique du 4 novembre. À Berlin-Ouest, on est passé tout près d'un autre drame. Dans cette enclave du monde libre au cœur de l'Empire soviétique, plus de 100 000 personnes manifestent le soir du 5 novembre pour réclamer « Liberté pour la Hongrie ». Dans la soirée, des milliers d'étudiants quittent le cortège et se dirigent vers la porte de Brandebourg pour défier les forces de sécurité est-allemandes. Il faudra la courageuse intervention de Willy Brandt, alors président du Parlement de la ville, pour éviter le pire. On perd d'ailleurs son sang-froid jusqu'au cœur de l'administration américaine. Robert Amory Jr., directeur adjoint de la CIA, qui connaît bien le pays, vit l'intervention soviétique comme une tragédie personnelle et propose de lancer une attaque nucléaire sur les voies de communication de l'armée rouge. De ce côté-ci du rideau de fer, l'intervention soviétique porte donc à incandescence les tensions culturelles et politiques de la guerre froide. Alors qu'un rapprochement s'esquissait en Europe occidentale entre communistes et socialistes, aussi bien en France qu'en Italie, c'est désormais l'affrontement verbal et parfois physique qui prévaut. L'interdiction pure et simple du Parti communiste est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale française, tandis que les obsèques solennelles de Jean-Pierre Pedrazzini, photographe de Paris Match, tué à Budapest, portent à son comble l'émotion de l'opinion. Les directions des partis communistes utilisent cette tension pour resserrer les rangs autour de leur citadelle assiégée, au sens propre comme au sens figuré. Les obsèques des militants communistes tués le 7 novembre à Paris sont pour eux l'occasion d'une démonstration de force et le 13 novembre est proclamée journée de mobilisation antifasciste. La presse communiste, de l'Humanité à l'Unita, en passant par The Daily Walker, prend le contre-pied de la presse bourgeoise en décrivant la révolte de Budapest comme un complot fasciste mettant en danger les conquêtes du socialisme. Budapest recommence à sourire à travers ses blessures, ira jusqu'à écrire André Steele, rédacteur en chef de l'Humanité, le 20 novembre 1956, après un séjour à Budapest. Toutefois, derrière l'apparente cohésion de ces véritables contre-sociétés que sont les partis communistes d'Europe occidentale, des failles jusqu'ici inconnues apparaissent à tous les niveaux. En Grande-Bretagne, dans les mois qui suivent l'intervention soviétique, le parti perd plus de 7000 adhérents, 20% de ses effectifs. En Italie, plus de 200 000 personnes quitteront le parti communiste italien en 1957, la perte la plus forte de son histoire. En France, la base sociale du PC semble mieux résister et aucune hémorragie n'est constatée dans les mois qui suivent la Révolution. Mais certaines branches de la CGT condamneront formellement l'intervention et le traumatisme hongrois ne cessera de hanter le parti dans les années et même les décennies qui suivent. C'est dans les milieux intellectuels que le recul des partis communistes a été bien sûr le plus spectaculaire. Pour beaucoup d'intellectuels membres des partis communistes occidentaux ou compagnons de route, déjà ébranlés par le 20e congrès et son rapport secret, Budapest fut le moment de vérité. Après la mise à nu du communisme soviétique, tout changeait. Nous étions responsables de ces crimes et de ces mensonges devant le peuple français, écrit Pierre Dex dans ses mémoires. Emmanuel Leroy-Ladurie se souvient aussi qu'au matin du 4 novembre, il n'était plus question pour moi de mourir un jour en odeur de stalinisme. Il s'en va sur le champ, rendre sa carte du parti à la section Montpellier-Rennes. J'eus un éblouissement. J'étais redevenu un homme libre. Il en fut ainsi pour tant d'autres intellectuels communistes, de François Furet à Alain Besançon, d'Annie Krieger à Max Gallo, et tant d'autres compagnons de route, Sartre, Picasso, Vercors. En Italie, l'historien communiste Federico Argentieri, chargé par le parti d'établir la version officielle du soulèvement, décide de prendre la défense de la révolution calomniée. Pour tout cela, le texte écrit par Camus pour le premier anniversaire de la Révolution, « Le sang des Hongrois », prend un relief particulier. Malgré leur misère, leur chaîne, leur exil, les Hongrois nous ont laissé un royal héritage que nous avons à mériter. Cette liberté qu'ils n'ont pas seulement choisie, mais qu'en un seul jour, ils nous ont rendue. Ainsi, l'année 56 apparaît rétrospectivement comme une ligne de partage des eaux dans l'histoire du communisme au XXe siècle, le début de la fin du pouvoir magnétique exercé par la Grande Lueur à l'Est depuis 1917. L'URSS était devenue un État étranger, écrit l'intellectuel français Edgar Morin, qui avait vécu son exclusion du parti en 1951 comme un drame et restait habité par l'utopie communiste. Non pas étranger parce que russe et moi français, étranger parce que vidé désormais de toute universalité, l'URSS rentrait dans la réelle politique. Elle n'avait plus de mission eschatologique, c'était un État. Et pourtant, il faudra encore attendre plus de 30 années pour que cette atteinte à la substance vitale du communisme, selon l'expression d'Annie Kriegel, aboutisse à l'effondrement du système, pour que l'État contre-révolutionnaire s'écroule partout à l'Est sous le poids de ses mensonges et de ses contradictions, comme l'espérait Camus en 1957. C'est que, si l'intervention du 4 novembre 1956 a bien affaibli le communisme comme foi, elle a indubitablement renforcé l'URSS comme État, et représente de ce point de vue tout autre chose qu'un début de la fin, bien plutôt la mise par écrit du pacte tacite de Yalta, selon l'expression de Pierre Kenday, la reconnaissance de facto du droit de l'URSS à dominer son empire, et finalement la consolidation de son statut de superpuissance. Elle y puisera pour longtemps la force de survivre à l'idée qui l'avait fait naître.
Et vous avez vu, dans cette partie, l'arme nucléaire. L'hégémonie américaine était déjà présente, représentée dans ce texte que nous venons d'entendre, qui est Budapest 1956 par Nicolas Boquet aux histoires de vive voix. Donc en dépit des cycles saisonniers, les révolutions vont contre le temps. J'ai pensé aux saisons car je disais, le temps, les révolutions sont contre le temps, mais le temps lui-même s'insère dans des cycles, les saisons. Donc en dépit des cycles saisonniers, les révolutions vont contre le temps, car les cycles sont davantage naturels, les cycles saisonniers sont naturels, alors que les révolutions sont généralement humaines. Je parle des révolutions humaines, en tout cas. Car circonviennent à tout changement de l'être humain. Des révolutions humaines. D'où les cataclysmes épisodiques qui font entrer la vie dans une nouvelle ère de la nature. Il y a... c'est au-dessus de nous. Il y a tellement de... Comme on ne va pas dans le sens du temps, le temps nous le montre par des cataclysmes. Ou des changements autres qui se font autrement que par des cataclysmes. Mais je... En tête, là, j'ai que les cataclysmes qui me viennent à l'esprit. On a pu, comme le cataclysme des dinosaures, de l'Atlantide, les Incas. On a pu entendre différents points, tels que la menace nucléaire, des ressortissants pro-russes, l'hégémonie américaine et surtout le mot « révolution », à de nombreuses reprises dans Budapest de 1956. Les révolutions qui appartiennent à différents cycles et à d'autres mêmes cycles, ou bien à des ères qui comportent des cycles qui se répètent par des révolutions. Car avec une révolution, on tourne en rond un petit peu, car on ne veut pas changer. Une révolution ne change pas le tout au tout, mais s'appuie sur le présent pour un meilleur futur, pour qu'un meilleur futur donne un meilleur présent, et pas un nouveau présent. Donc on n'a pas à changer, parce qu'on veut juste un meilleur présent. Bon, à présent, on va s'écouter Footfall par The X. Je vais à présent vous donner un second exemple depuis la bande dessinée Chronique diplomatique de 2021, Iran 1953, qui est, le scénario doit être de Tristan Rouleau et les dessins de Christophe Simon aux éditions Le Lombard, édition belge, une fois. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà. Donc ça commence un peu avant 1953, ça commence même au XXe siècle, lorsqu'il découvre un forage très profond et très, très fourni en Iran, les Anglais et Français, surtout les Anglais, je crois. Et en fait, ça commence... Eisenhower est alors président des USA, on est dans les années 50, 53, ben, forcément, 51, 52, 53. Et les gisements pétroliers intéressent l'Angleterre, les USA, la France. Et nous sommes en pleine guerre froide avec les Soviétiques, le Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, qui lui est, je vous la fais courte, hein, qui lui est attaché à la monarchie. Mossadegh, lui c'est un personnage politique d'Iran. Lui, en 53, il voulait donner le droit aux femmes, le droit de vote aux femmes. Il s'opposait aux radicaux Fedayeen et il a été menacé de mort à maintes reprises pour finir emprisonné suite à un coup d'État monté par la CIA afin que le Shah puisse permettre aux USA et à l'Angleterre de manger 40% chacun de l'exploitation du pétrole iranien, contre 14% pour la Hollande et 6% pour la France. Et surtout, en pleine guerre froide, empêcher l'Union soviétique d'aller se servir. Mossadegh croyait à la richesse des terres de son pays pour son indépendance au rang mondial. C'est la raison majeure pour laquelle les United States of America l'ont détruit, Mossadegh, avec l'aide de leur presse de propagande notamment. Donc vous avez eu déjà les mecs en pleine guerre froide ou non, les Américains, ils voulaient, c'est la CIA qui a monté tout ce coup, parce que c'était un petit peu la politique, le monarque, il était parti parce que il était trop lié aux Anglais, et donc il était parti en Italie, à Rome. Et donc là, Mossadegh avait tout le peuple avec lui. Et il, malgré avoir des idées que les radicaux s'opposaient, les radicaux s'opposaient à certaines de ses idées, comme j'ai pu vous le dire. Ils ont dit, les Américains, ils se disaient, bah non, mais si c'est lui qui reste au pouvoir là-bas, on n'aura pas notre essence. Et on ne sera pas de fric, on ne sera pas de bénéf. Hein, on a besoin de son essence parce que nous, on a de l'essence, on a du pétrole, mais on a besoin du sien parce que nous, on veut garder le nôtre, quoi. En gros, c'est à peu près ce que j'ai compris et c'est à peu près ça. Donc, comme vous avez, j'espère, pu comprendre, ces deux exemples, donc Budapest 1956 et l'Iran en 1953, ça revient, enfin, l'Amérique, quoi, continue et a toujours détruit le reste du monde pour ses bénéfices, quoi. Et on a parlé de la Chine. Et maintenant, ils ont détruit, comme je vous disais dans les précédentes barges russes, ils ont détruit l'Europe. Ils sont en train de détruire la Russie, là, on le voit. Mais on ne le voit pas encore, mais ils sont aussi en train de détruire la Chine. Les Ouïghours, tout ça, ça a été médiatisé, surmédiatisé. Après, ce qui est fait là-bas, c'est sûr que c'est inhumain. Mais j'habite pas à Ouïghours, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'en sais rien. Ouïghours, vous savez, c'est les musulmans chinois qui se font persécuter. Mais tout ça, c'est monté, quoi. Enfin, c'est médiatisé à fond la caisse par les médias américains. D'ailleurs, Mossadegh, il était fustigé par la presse américaine. Même si... À se demander si l'attaque de Poutine n'a pas agi en fonction de la CIA pour que la CIA prenne le gaz russe, ou alors pour une raison, comme le gaz n'est plus... Enfin, ils n'ont pas de gaz russe en Amérique, mais comme le gaz va devenir impossible d'en avoir en Europe, le gaz russe ne pourra pas venir en Europe pour l'instant, eh bien, ça va être le bon moment de faire péter le charbon. Et eux, vu qu'ils ont plein de charbon, comme la Chine, maybe, I don't know, c'est peut-être un coup monté encore par la CIA, tout ce qui arrive. Hey, who knows, who knows? Donc l'être humain n'est pas encore capable de changer son fond intérieur, qui est encore trop attaché au matériel ou à la fabrication qu'il donne à ses souvenirs. Nous sommes mis en garde, mais nous ne sommes pas protégés. 1, 2, 3, 4...
C'est Sujet FM, la page russe.
C'est Sujet FM, avec Johnny Tumek. Oui, Sujet FM, j'en peux plus.
La page russe, Sujet FM, with Johnny Tumek, à 14h.